L'inconscient étant constitué des désirs refoulés et de pulsions, le préconscient étant l'instance de la censure, qui aide la conscience à refouler les désirs non compatibles avec l'ordre social, mais qui ont réussi à tromper la vigilance du préconscient. À partir de 1920, Freud introduit la seconde topique constituée du moi, du surmoi et du ça. Conscience et l'inconscient a le moi, appelé aussi conscience en psychanalyse. Le moi désigne l'une des trois instances de l'appareil psychique, aux côtés du ça et du surmoi. Il est en contact avec la réalité extérieure. Il tient rigoureusement compte des interdits et censure tout désir non compatible avec l'ordre social. Il subit la pression du ça. La formation du moi commence à la naissance, dès les premières confrontations avec le monde extérieur. Le moi apprend à modifier son comportement en contrôlant les pulsions socialement inacceptables. Il a un rôle de médiateur entre les pulsions inconscientes et les critères sociaux et personnels acquis. B, le surmoi, appelé aussi censeur, il est constitué par l'ensemble des interdits parentaux ou sociétaux. Depuis la prime enfance, les règles et les normes établies censurent certains désirs, les empêchent de se réaliser. Tout individu intériorise ces règles. Avant même que ces désirs qui proviennent de l'inconscient arrivent à la conscience, ils subissent le contrôle rigoureux du surmoi. Si ces désirs sont conformes à l'ordre établi, ils passent. S'ils ne sont pas conformes, ils sont systématiquement refoulés. Selon Freud, cette lutte se déroule à l'insu du sujet conscient. Il dit que le moyen propice pour tromper la vigilance du surmoi, c'est le sommeil. C'est le ça ou inconscient, le ça est dominé par le principe de plaisir, qui pousse l'individu à accéder immédiatement à ses désirs. Dans la théorie de Freud, le ça est constitué de l'ensemble des pulsions et tendances qui sont en nous depuis notre naissance. L'énergie qui est à la base de ces tendances d'origine sexuelle, Freud la nomme libido. Le ça est donc composé de la libido et de l'ensemble des désirs qui ont été refoulés depuis l'enfance. Il ignore le temps. C'est pourquoi tous les désirs refoulés, rejetés dans l'inconscient, attendent un moment propice pour se réaliser. Ils ne disparaissent pas. Leur réalisation peut emprunter des voies détournées comme le rêve ou la création artistique et littéraire, par ce que Freud nomme sublimation. À ce sujet, Freud dit que le rêve est la voie royale qui mène vers l'inconscient. Mais le rêve n'est pas le seul moyen pour accéder à l'inconscient. Il y a aussi les actes manqués, la psychanalyse, la technique du divan qui se substitue à l'hypnose ou la névrose. Au total, le noyau de toutes les tendances humaines est la libido. Et Freud dira que cette libido renferme la pulsion de vie appelée Eros et la tendance de mort appelée Thanatos. Eros nous incline vers tout ce qui est satisfaction des désirs sexuels et les variantes de ces désirs que sont l'affectivité, l'amour pour les parents, les amis, les frères, etc. Thanatos, c'est tout ce qui nous incline vers l'agressivité, les sentiments négatifs de destruction envers soi-même et les autres. Dans ce contexte, le complexe d'Œdipe se présente depuis l'enfance à travers ces deux pulsions, Eros et Thanatos. Chez l'enfant, dit Freud, Eros se fixe sur le parent de sexe opposé et Thanatos sur le parent du même sexe. Chez la fillette, on parlera volontiers de complexe d'Électre. Sur ce même registre, Freud donne à la notion de sexualité un sens qui déborde la signification courante du terme. Il reconnaît l'existence d'une sexualité infantile qui s'exprime à travers trois stades. Le stade oral qui met l'accent sur la bouche, le stade anal qui est centré sur l'anus et le stade génital tourné vers les parties génitales. Selon Freud, le bon ou le mauvais déroulement de la sexualité infantile se répercute sur celle de l'adulte. Ce que la théorie de Freud apporte comme nouveauté, c'est que les troubles de la personnalité trouvent leur explication et, dans certains cas, leur solution lorsque, par la technique de l'analyse, on parvient à remonter à l'enfance des patients et à découvrir les aspects troublants ou traumatisants de leur histoire. Cependant, la théorie psychanalytique de Freud n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Peut-elle prétendre être une science au même titre que les sciences expérimentales, les sciences humaines ou les sciences formelles? Admettre l'existence d'un inconscient psychique, n'est-ce pas ôter à l'homme la responsabilité qui est liée à sa liberté? Accepter l'existence d'un inconscient, dit Sartre, c'est fournir à l'homme un alibi pour fuir devant ses responsabilités. Est-il donc concevable de définir l'homme non pas comme un être de raison, mais plutôt comme un être de désir? Deux portées et limites de la théorie de l'inconscient, en découvrant l'inconscient, Freud a apporté une révolution à la conception de l'être humain. L'interprétation des rêves et la technique du divan vont lui permettre de faire du patient un acteur de sa propre guérison. Lorsque Freud applique les théories de la psychanalyse aux autres phénomènes sociaux, tels que la religion, la création artistique et littéraire, il fait une œuvre révolutionnaire mais dont la portée peut être relativisée. En tout état de cause, son influence sur la littérature, notamment sur le courant surréaliste, est incontestable. L'interprétation que Freud fait de la religion n'est pas éloignée de celle des matérialistes, Marx, Engels. Il faudra noter qu'à partir de Freud et autour de lui, plusieurs théoriciens de la psychanalyse émergent. Ils critiquent et complètent à la fois l'œuvre du maître. Ils ont pour nom Carl Gustav Jung et Alfred Adler, qui ajoutent à la théorie freudienne l'idée d'un inconscient collectif. La réaction de Freud face aux critiques de ses disciples sera l'excommunication. La théorie psychanalytique, qui se veut scientifique, est-elle inattaquable, non critiquable? Le critère de scientificité d'une théorie, dira Karl Popper, c'est sa falsifiabilité. Cela revient à dire que pour être vrai, il ne suffit pas pour une théorie d'avoir un caractère expérimental, mais il faut surtout que les faits sur lesquels la théorie se base puissent être soumis à la vérification et soient confirmés ou infirmés. Certes, la pratique clinique freudienne a donné des résultats appréciables, mais une théorie scientifique ne peut pas tout justifier, tout expliquer ou encore avoir toujours raison. Si donc la théorie de Freud ne se prête pas à des améliorations ou à un dépassement, elle ne saurait prétendre à la scientificité. Toute vérité scientifique, dit Gaston Bachelard, est en surice parce que la science avance par rectification successive de ses erreurs. Conclusion au plan philosophique, l'inconscient introduit l'idée d'une détermination, d'un déterminisme face à la liberté. L'homme serait-il libre ou plutôt entièrement déterminé par son inconscient au sens où il dirait que c'est l'inconscient qui agit en lui? Pour cette raison, Sartre récuse l'idée d'un inconscient psychique. L'homme est liberté et sa nature entière, c'est d'être libre. Et c'est en ce sens qu'il est entièrement responsable, dit Sartre. Se réfugier derrière l'inconscient pour justifier un comportement, c'est de la mauvaise foi, conclut Sartre, pour qui l'inconscient est une pure illusion, une fiction.